Bonjour, vous êtes sur Bac FM 106.1, c'est l'heure de My Manga Academia, l'émission 100% manga présentée par Oriane. Ce mois-ci, c'est une émission assez spéciale consacrée au Rakugo, un art du conte traditionnel japonais et théâtralisé. Pour cette émission, je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie d'un maître de Rakugo et également traducteur de manga, Cyril Copini. Bonjour Cyril.
Bonjour, konnichiwa, bonjour Oriane, bonjour tout le monde.
J'ai eu la chance de voir votre représentation de Rakugo à Nevers il y a maintenant un peu plus de deux mois. Donc le dimanche 7 avril, avec le soutien de l'association Kitsune, moi et 83 autres personnes avons pu y assister. Vous m'avez fait redécouvrir certaines histoires du folklore japonais, notamment avec la première histoire qui se nomme Jugemmu. J'ai beaucoup aimé, bien que je connaissais l'univers, notamment grâce à certains mangas, j'ai pu découvrir toute la complexité qu'il y avait autour de cet art. Ce qui m'avait marqué le jour de votre représentation, ce sont tous les codes que le Rakugoka doit respecter. Je les connaissais un tout petit peu, mais c'est vrai que là, il y a des codes très spécifiques, tels que la tenue, les objets que vous avez le droit d'avoir avec vous sur scène, la position et la gestuelle que vous avez lorsque vous interprétez tel ou tel personnage. Alors, je n'ai volontairement pas défini ce qu'était Rakugo pour éviter de rentrer dans des détails trop complexes. Je préférerais laisser la parole à un professionnel. Cyril, si vous deviez expliquer ce qu'est le Rakugo à quelqu'un qui ne connaît pas cet art, quelle définition lui donneriez-vous ?
Eh bien, la définition la plus simple du Rakugo, c'est art traditionnel japonais. Vous connaissez probablement le no, le kabuki. On a un petit peu tendance à connaître ça en Europe, enfin en France et en Europe. Et puis il y a un autre art qui s'appelle le bunlaku, c'est du théâtre de poupées, ça vient de Osaka. Et le quatrième art traditionnel, parmi ces grandes catégories, c'est le rakugo. Alors, ça c'est vraiment la définition la plus, on va dire, académique et la plus simple. Quand on compare aux autres arts traditionnels, donc le kabuki ou le no, on est souvent frappé par des couleurs assez vives de kimono, il y a des masques, il y a des maquillages, il y a des perruques, mais le rakugo c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, c'est très minimaliste, en fait c'est juste un conteur ou une conteuse, puisqu'il y a des femmes aussi qui font du rakugo, qui est habillée avec un kimono et qui est assis en position traditionnelle, en seiza, sur les genoux, et qui va raconter une histoire. Alors, en fait, le conteur est seul en scène, et ce sont les personnages de l'histoire qu'il raconte qui vont faire vivre cette histoire. Donc le conteur est un filtre qui interprète tous ces personnages avec, comme vous l'avez décrit à l'instant, des codes, des gestuels très très spécifiques. Alors voilà, ça c'est pour la définition un peu globale. Après, moi j'ai envie de dire que le Rakugo, il y a plusieurs catégories d'histoires, dont des histoires comiques, beaucoup d'histoires comiques. Donc j'ai souvent envie de dire que le Rakugo c'est une espèce de stand-up, mais c'est du stand-up assis, parce que les Japonais ne font jamais rien comme les autres.
Voilà. Effectivement, pour le coup, les Japonais, effectivement, ne font jamais pareil que les autres. Donc, pour le coup, le Rakugo, c'est vraiment la personne sur scène avec son talent et uniquement son talent et quelques objets, pour le coup. Comme vous avez commencé à en parler, je sais qu'à l'occasion d'une de mes lectures, j'ai pu lire une interview que le maître Katsura Utamaru a donnée. Mm-hmm. Et dans celle-ci, il disait que selon lui, le Rakugo renfermait quatre catégories principales. Mm-hmm. Donc le Kokei Banashi, le Shibai Banashi, le Kaidan mm-hmm. Banashi et le Ninjo Banashi. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps expliquer à quoi correspond chaque catégorie? Et puis dans un second temps, si vous êtes d'accord avec le maître Utamaru ou si vous avez des critiques ou des précisions à ajouter par exemple?
Alors d'abord, je préciserai que vous avez une excellente prononciation en japonais, Oriane.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Et que le mot banashi, que vous venez de répéter quatre fois d'affilée, puis qui correspond à ces quatre grandes catégories d'histoire, veut dire justement histoire en japonais. Donc c'est un mot qui va revenir souvent dans le monde du Rakugo. Alors oui, quatre grandes catégories principales, le kokkei banashi. Alors kokkei banashi, c'est des histoires drôles, hein, comiques, dont on parlait à l'instant, qui représente, on va dire, allez, 80-85% du répertoire traditionnel du Rakugo. Le Shibai Banashi, c'est justement un peu à l'extrême de la forme du Rakugo tel qu'on le connaît de nos jours. Le Shibai, ça veut dire théâtre en japonais, et donc ce sont des histoires avec une mise en scène des jeux de lumière, des interventions de musique aussi pendant l'histoire. Et c'est une forme, c'est une catégorie qu'on pratique de moins en moins, parce que justement le rakugo maintenant c'est quelque chose de très minimaliste. Comme je vous disais tout à l'heure, juste le compteur et c'est lui qui va faire tout le travail finalement avec sa voix, avec ses gestes codifiés. Et puis donc ces deux objets, ces deux accessoires qu'il a en permanence avec lui, un carré de tissu qui s'appelle le tenugui et un éventail en japonais le sensu. Donc le shiba ibanashi, c'est pas vraiment un genre qui est très développé de nos jours. Ensuite, on a le Kaidan Banashi. Kaidan, c'est les histoires d'horreur, les histoires de fantômes. Et le Ninjo Banashi. Ninjo, littéralement, c'est les sentiments humains. Donc, c'est des histoires souvent dramatiques qui mettent en scène des couples, un homme et une femme, qui se déchirent. Donc, c'est plutôt des histoires qui attirent les larmes ou la compassion. Donc parmi ces quatre catégories de nos jours, en tout cas moi c'est celle que je pratique le plus aussi, c'est vraiment les kokebanashi, les histoires drôles, et c'est pour ça que je ramenais la définition du rakugo à une forme de stand-up assis.
D'accord, merci beaucoup pour ces explications. Vous dites comme quoi vous jouez principalement en tout cas la catégorie Kokei Banashi pour le coup. Est-ce que ça vous arrive d'interpréter des histoires qui sont dans d'autres catégories justement?
Alors j'ai effectivement des histoires de Kaidan Banashi, des histoires de fantômes. Mais comme c'est du rakugo, ça part en histoire de fantômes, mais à un moment donné ça vrille en parodie. Donc si vous voulez, on part sur une histoire de fantômes, mais ça va devenir quelque chose de comique dans la deuxième partie de l'histoire. Donc même les histoires de Kaidan, même les histoires de fantômes, elles sont plutôt rigolotes à écouter. Après j'ai effectivement une histoire qui s'appelle Shinigami. Shinigami, c'est l'ange de la mort. Là aussi on est sur une Ninjo Banashi, donc une histoire avec les sentiments humains. Mais là pareil, on peut se débrouiller pour apporter une chute un petit peu rigolote et faire retomber tout d'un coup la tension dramatique qu'on a pu instaurer pendant tout le long de l'histoire, quoi. Et ça aussi c'est la spécificité du rakugo, c'est-à-dire que on va créer une ambiance, on va créer une tension, on va créer et développer un drame qui va peut-être faire aussi retenir sa respiration au public pour arriver à une chute assez abrupte qui souvent se révèle justement comique, quoi. Et c'est ça aussi la définition du mot rakugo. Rakugo, littéralement, ça veut dire la parole qui a une chute. Parole, c'est go, et raku, c'est la chute. Et c'est vraiment la spécificité de cet art, quoi.
Ce que j'avais particulièrement aimé également le 7 avril, c'est le mélange des langues lors de votre spectacle. C'est ce que j'avais eu un petit peu peur, c'est que j'ai quelques bases en japonais, mais j'avais eu peur de pas forcément comprendre ce que vous dites. Mmh. Et pourtant, c'est vrai que dans votre représentation, vous avez changé à plusieurs reprises entre le japonais et le français. Mmh. Et est-ce que vous êtes le seul à le faire? Et est-ce qu'il y a d'autres rakugoka qui le font, mais dans d'autres langues par exemple?
Alors, je suis le seul français à faire du rakugo en japonais et en français, et un petit peu en anglais aussi, mais moi j'ai commencé à faire du rakugo en japonais. Donc, et puis je vis au Japon, puis ça fait très longtemps que je pratique la langue japonaise, donc évidemment pour moi ça a été presque naturel de commencer par faire du rakugo en japonais. Et c'est venu après l'idée d'adapter et de présenter cet art en français et donc au public en France ou dans les pays francophones. Et c'est vrai que je me rends compte, ça fait maintenant 8 ans à peu près que je tourne régulièrement en France, et je me rends compte que le public en général, quand on lui présente un art traditionnel japonais, même s'il comprend pas le japonais, il a envie d'entendre du japonais. Donc après il y a des réflexes linguistiques, on va dire, des questions de rythme dans l'histoire qui fait que ça va plus vite d'avoir une réaction en japonais qu'en français. Alors évidemment, on va apporter la réaction en japonais et puis juste derrière faire la traduction de ce qu'on vient de dire en français. Mais c'est vrai que ça donne du rythme aussi beaucoup en japonais. Donc pour moi, c'est très important de maintenir et de garder, même si on comprend pas tout, hein, des formules en japonais. ça renforce aussi l'authenticité de l'art. Donc, je suis le seul à le faire en français et en japonais, mais il y a un autre français qui le fait aussi et qui vit en France, mais qui ne parle pas beaucoup japonais, donc lui c'est vraiment très très en français qu'il le fait. Après, dans les autres nationalités, on a de plus en plus, effectivement, de gaijin, d'étrangers, qui se mettent au rakugo de façon professionnelle ou amateur. Et dans les professionnels, je pense notamment à un Canadien d'origine anglaise, enfin de anglophone, qui s'appelle Katsura Sunshine, qui tourne pas mal aux États-Unis. Et puis là, en ce moment, au Japon, les projecteurs du monde du rakugo sont beaucoup braqués sur un Suédois qui s'appelle Sanyute Kosenen, qui lui pratique pour le coup beaucoup en japonais, un petit peu en anglais et en suédois. Et d'ailleurs, il va être en France, à Paris, dans quelques semaines.
Parfait, merci beaucoup pour cette précision. Justement, vous disiez comme quoi c'était quand même important de garder une petite touche de japonais dans le rakugo. Mmh. Selon vous, est-ce qu'une histoire aura le même effet si elle est racontée en japonais ou traduite dans une autre langue ?
Alors, la question de l'adaptation, c'est une question qui revient assez souvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires qui se terminent avec un jeu de mots en japonais, donc c'est difficilement traduisible, en tout cas littéralement en français. Après, on a la chance d'avoir une langue qui est très riche en subtilités, et donc on peut toujours, si on se creuse un peu les méninges, trouver une parade et trouver un jeu de mots en français qui, même s'il ne restitue pas intégralement la chute en japonais, ou le jeu de mots en japonais, va s'en approcher. Donc ça, c'est une chose. Après, le rakugo, en tout cas les histoires de rakugo, sont bien ficelées, elles sont bien fichues pour ça. Il y a beaucoup d'histoires qui ont des thèmes universels, des situations qui font que la langue n'est pas un problème finalement. Hein. Je veux dire, dans le monde entier, il y a des couples qui se disputent. Dans le monde entier, il y a des gens qui boivent un coup de trop. Dans le monde entier, il y a des gens qui essayent d'arnaquer d'autres gens, etc., etc. Donc tout ça, c'est des thèmes qu'on va retrouver dans le rakugo et qui finalement est vraiment très très accessible et adaptable dans n'importe quelle langue que le japonais.
D'accord, parfait. Merci beaucoup pour ces informations. Justement, comme vous parliez des histoires et du fait que ça soit quand même un minima un peu universel, ce qu'on peut retrouver dans le rakugo, j'avais une question un tout petit peu plus historique. Est-ce que vous pourriez nous raconter les origines du rakugo, comment il est apparu, où est-ce qu'il se jouait au Japon, et est-ce qu'il y a eu des moments entre guillemets forts ou faibles pour cet art selon les époques et les rakugoka qui existaient ?
Alors, pour l'histoire, ça va être compliqué de vous faire ça de façon condensée, mais en gros, le rakugo tel qu'on le connaît et qu'on le pratique aujourd'hui, ça remonte à l'époque Edo, donc c'est-à-dire au XVIIe siècle. Donc il y a quand même 400 ans d'histoire derrière tout ça. Et c'est un art qui est apparu sous différentes formes dans trois lieux différents du Japon, plus ou moins à la même période. Et chacun aussi de nos jours se tire un peu la couverture à soi en disant, les gens à Tokyo disent non, le rakugo ça vient de Tokyo, les gens de Osaka et de Kyoto, donc dans le Kansai, disent non, ça vient de Kyoto, etc., etc. Donc on n'a pas vraiment d'informations pour définir où ça a commencé exactement, mais plus ou moins donc dans les trois villes que sont Tokyo, Edo à l'époque, Kyoto et Osaka. Dans le Kansai, donc à Kyoto et à Osaka, ça a commencé dans la rue et dans les temples, c'est-à-dire qu'il y a un lien très fort aussi avec le bouddhisme, hein, avec le rakugo. Il y avait beaucoup de moines, hein, qui sont à l'origine de ce qu'est le rakugo, parce que c'était des moines qui se baladaient pour apporter la bonne parole, on va dire, qui faisaient des sermons pour le public, qui à l'époque était illettré, hein, donc il fallait bien leur trouver un moyen de transmettre des informations. Et puis, parmi ces moines, il y avait des moines qui étaient plus ou moins doués pour raconter des histoires, pour faire des sermons, et le faire de façon aussi comique, ce qui permettait de garder et de capter plus longtemps l'attention du public. Donc ça, c'était dans le Kansai. Et puis, quand le pouvoir politique s'est installé à Tokyo, il y avait des grands seigneurs qui ils envoyaient des gens pour repérer ces conteurs émérites pour les avoir rien que pour eux. Et donc, il les faisait venir à Edo, donc à Tokyo, et il se les gardait pour eux, pour faire des spectacles privés, si vous voulez, dans des salles de tatami, qu'on appelait les ashiki. Et c'est comme ça que le rakugo est né plus ou moins de façon simultanée dans les deux régions. Et aujourd'hui encore, on a deux grandes écoles de rakugo. On a le Edo rakugo, donc le rakugo de Tokyo, et le Kamigata rakugo, qui est le rakugo de Osaka. Kyoto et Osaka ayant fusionné à un moment donné de l'histoire. Et donc on a ces deux grands courants de rakugo. Si vous allez au Japon maintenant pour voir du rakugo, il y a des théâtres qui sont ouverts toute l'année, qui s'appellent des yosei. Et ces yosei, eh bien, l'ancêtre de ces cabarets, c'est justement ces pièces à tatami, les zashiki, dans lesquelles les conteurs qui avaient été engagés par les grands seigneurs se produisaient. Donc il y a toute cette histoire qui est liée. Après, pour répondre à votre question sur les moments de fort ou faible, bah évidemment, c'est comme tout art traditionnel ou culturel, on va dire. Il y a des moments où ça va plutôt bien et d'autres où ça va plutôt moins bien. Mais c'est vrai que le rakugo, ça reste quand même, on va dire, ça s'est toujours maintenu, quoi. On parlait en début d'émission des autres catégories d'art traditionnel. C'est vrai que le rakugo, il reste vivant. Avec son époque aussi, de façon assez surprenante. C'est-à-dire qu'on trouve du rakugo dans les mangas, on trouve du rakugo à la télé, au Japon, hein. On trouve du rakugo à la radio, etc., etc. On a les yosei, donc ces cabarets qui sont ouverts toute l'année, et on peut y aller quand on veut, quoi. Alors que, par exemple, pour assister à un spectacle de kabuki ou de no, c'est plus compliqué. Il y a des périodes dans l'année, il y a des saisons, l'accès est beaucoup plus cher. Ça reste un art vraiment très populaire et qui touche toutes les couches de population et qui vit vraiment avec les Japonais, quoi.
Avant de poursuivre cette interview, nous allons faire une courte pause musicale avec une musique qui me semble que vous affectionnez particulièrement, Talatouche Manouche de la Caravane Pass avec San Severino.
Ciao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, alterno, reconverti,
guitare héros,
soulageur de démangeaisons guitaristiques, astiqueur de manches,
pompeur de rythmique.
On dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse, y'a pas un radar qui peut te flasher l'index, doubleur de croche, tricoteur,
névrotique,
joyeux jazzeux, on voyage sur le riff.
On rêve de bohème, de route, de Romain Michel, mais en fait on s'appelle Romain Michel.
T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche.
Clique de la mélodie, de la métronome rythmique. Pendant que t'essaies de bouger, tous tes gros doigts engourdis par le froid, le désir, la branlette et la pluie. Si tu n'as pas les mains dans tes poches, ni dans ton dos, tu n'es pas un carac, ni un métalleux métallo. Le feu qui crépite et qui brûle comme un chameau, le feu qui a tout cramé dans la caravane à Django.
On rêve de bohème, de route, de Romanichel, mais en fait on s'appelle Romain Michel.
T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super. À la mouche, ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche.
Si on voit ta cartouche,
je me suis réveillé, ma moustache avait poussé.
Après m'être cramé deux doigts pour mieux jouer, j'ai décidé d'abandonner.
Depuis, je fais des gammes au plumard, j'astique mon manche en manouche et air guitare.
Et je pense au palace et à ses bombasses, au hot club de français, aux caravanes qui passent.
On a beau se la jouer comme Papi Django,
mais la copie du génie, c'est souvent pas Jojo.
Ouais. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui touchent. Tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Oui, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Oui, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. T'as la touche manouche.
Touche manouche.
sommes de retour sur Bac FM 106.1 dans l'émission My Manga Academia présentée par Oriane, consacrée ce mois-ci au Rakugo. Nous sommes toujours en compagnie de Cyril Copini, maître Rakugo, mais également traducteur de manga. Justement, tout à l'heure, vous parliez des Yosei. Justement, j'aimerais revenir un petit peu à vous. Est-ce que c'est dans un de ces endroits-là que vous avez découvert le Rakugo ?
En vrai, oui, effectivement, dans les Yosei, mais je l'ai d'abord découvert dans les livres. En fait, moi, j'ai découvert le Rakugo quand j'étais étudiant, donc ça remonte à quand même une paire d'années. Je pense que vous n'étiez pas encore né, Oriane, à cette époque-là. Moi, j'ai étudié le japonais à Paris, à l'INALCO, donc c'est l'Institut des langues et civilisations orientales. Et je devais écrire un mémoire de fin d'études sur un auteur moderne de littérature qui était très influencé par le Rakugo, qui avait été très influencé par le Rakugo. Donc, en étudiant la vie de cet homme, je suis tombé sur le Rakugo. Alors, on est dans les années 90, hein, mi-90, donc il n'y a pas d'Internet. Il y a très peu d'informations en français
effectivement,
autour de cet art aussi. Donc, pour moi, au début, ça a été très, très compliqué d'imaginer ce que ça pouvait être le Rakugo, parce que tout ce que j'avais à disposition, c'était des vieux textes en japonais, enfin en japonais classique, etc. etc. Et pendant quelques années, je me suis demandé mais qu'est-ce que ça pouvait vraiment être que ce truc. Et c'est en allant au Japon, en découvrant le Rakugo à la télévision. Il faut savoir qu'il y a une émission de télé au Japon qui est diffusée tous les dimanches à 17h30, c'est pendant une demi-heure, ça s'appelle Shoroten. C'est la plus vieille émission de télé en matière de longévité au monde. Pas seulement du Japon, mais au monde. Elle a plus de 50 ans d'existence.
Oui, effectivement, ça commence à faire un peu d'années.
C'est une émission de Rakugo. Donc, on se branche sur la télé et pouf, on tombe sur des Rakugo K qui sont des stars hein, au Japon, évidemment, puisqu'ils sont dans le petit écran. Alors, c'est pas les mêmes, hein, évidemment. Il y en a qui ont passé l'arme à gauche depuis le temps. Les participants de l'émission sont renouvelés, je veux dire. Mais voilà, on peut accéder facilement comme ça au Rakugo. Et c'est vrai que j'ai vraiment découvert comme ça après à la télé. Et quand je me suis installé à Tokyo en 2001, j'ai enfin pu aller dans un Yosei et voir en live, ce que ça donnait. Il faut savoir que de nos jours, il reste plus beaucoup de Yosei au Japon. Il y en a 4 principaux qui sont à Tokyo. Il y en a 2 grands autres à Osaka. Et puis après, c'est un petit peu éparpillé sur Nagoya. Enfin voilà, il y a très très peu maintenant de Yosei. Donc si on veut voir du Rakugo en vrai, il faut vraiment aller sur Osaka ou sur Tokyo, quoi.
D'accord, bah parfait. Merci beaucoup d'avoir pu partager cette expérience personnelle. On va continuer un tout petit peu sur vous. Je sais que vous avez eu un parcours pour devenir Rakugoka qui, entre guillemets, sort des sentiers battus. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous en êtes arrivé à exercer ce magnifique métier ?
Effectivement, moi je suis un électron libre. C'est-à-dire que normalement, il faut suivre une formation auprès d'un maître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école. Comme on peut avoir des écoles de théâtre ou prendre des cours de théâtre en France, on va pas payer un professeur, un sensei, tant de milliers de yens par mois pour avoir un ou deux cours par semaine. On devient disciple d'un maître, ce qui sous-entend que on s'abandonne à lui, j'ai envie de dire. Hein. On va d'abord plier les kimonos, laver les chaussettes, nettoyer les chiottes. Enfin, c'est un peu ça le délire, avant de pouvoir commencer à apprendre des histoires et de s'imposer comme professionnel du Rakugo. Alors, c'est une formation avec des grades. Ça peut durer, en fonction de son niveau d'aptitude, entre 10 et 15 ans. Donc, c'est quand même un sacré chemin de croix. Et moi, j'avais pas du tout envie de passer par là, mais bon, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des grands maîtres qui m'ont enseigné les bases du Rakugo et une histoire complète, hein, ça c'était en 2010, et c'est comme ça qu'après, à partir de 2011, j'ai fait mon premier show sur scène, au Japon donc, et que depuis, ça a pris de l'ampleur et que j'ai commencé à développer ça en français et à le présenter aussi en France, un petit peu partout, quoi.
Est-ce que vous pourriez, justement, vous me parliez de votre première fois sur scène, est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est passé, quelle histoire, par exemple, vous avez pu raconter, et qu'est-ce que vous avez ressenti aussi, parce que je suppose que ça devait être une grosse appréhension avant de monter sur scène.
Alors, c'est une énorme appréhension. Maintenant, je m'en souviens que c'était en octobre 2011, et j'avais fait mon esquisse de formation donc avec un maître qui était de Osaka. Donc je me souviens qu'en 2010, l'année précédente, une fois par mois, je faisais l'aller-retour Tokyo-Osaka pour qu'il m'apprenne. J'avais dit, on va prendre son temps, on va prendre une année tranquille. Vous allez m'apprendre une histoire et puis vous allez m'apprendre quelques bases justement de gestuels codifiés, tout ça. Et donc la première histoire que j'ai jouée et qui m'a appris, c'est Dorobutsuen, le zoo. Donc c'est une histoire assez loufoque, avec un homme qui est obligé de se déguiser en tigre et rentrer dans la cage du tigre dans un zoo parce que le tigre est mort. Et donc c'est lui qui va faire le tigre. Il lui arrive plein de mésaventures. Alors c'est une histoire qui paraît... c'est une histoire qu'on peut apprendre effectivement quand on débute parce que la chute est imparable. Donc quel que soit le niveau de jeu qu'on a, la chute est vraiment bien ficelée, bien rigolote, donc on est sûr de faire mouche. Mais en même temps, c'est une histoire qui est assez difficile à jouer parce qu'il y a plusieurs personnages, donc il y a beaucoup de changements de direction de regard, de gestes, etc., etc. Donc on apprend beaucoup de choses avec cette simple histoire qui fait 10 minutes, un quart d'heure si on arrive un peu à tirer sur quelques scènes. Donc ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu à l'époque. Et puis surtout, j'étais très mauvais, quoi. Quand j'y repense maintenant, je me dis, voilà, quelle catastrophe. Et on avait organisé cette soirée à Tokyo dans un petit café qui s'appelle le Rakugo Café, donc qui est dédié au Rakugo, qui n'est pas un yosei, hein, c'est vraiment un café. Et le soir, il y a des spectacles de Rakugo, mais on peut le louer facilement, quoi. Et donc j'avais fait venir le maître de Osaka et on avait organisé cette soirée. Et heureusement qu'il était là parce que oui, j'étais vraiment très nul, quoi.
Je ne pense pas, honnêtement. Je vous ai vu à Nevers, je trouve que vous avez beaucoup de talent. Vous allez me dire que vous avez quand même progressé depuis.
Oui, mais vous m'avez vu avec 10 ans d'expérience.
Effectivement, beaucoup. Mais bon, c'est une première fois et c'est ça qui a fait que vous avez pu lancer votre carrière et que j'ai pu vous voir à Nevers, du coup.
C'est sûr qu'après, à un moment donné, il faut se lancer, hein, parce que... Voilà, c'est pas... Faut bien commencer quelque part, quoi.
Effectivement, pour le coup. Et puis, vous avez pu que vous améliorer, du coup.
Absolument, absolument.
Justement, tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de nous raconter la première histoire que vous avez jouée sur scène, vous parliez justement que c'était quand même une histoire assez complexe, assez technique, parce qu'il fallait jouer plusieurs personnages. Mm-hmm. Il me semble que c'est quand même une qualité importante pour le Rakugoka. Est-ce que vous pourriez, selon vous, quelles sont les qualités principales qu'un Rakugoka doit avoir ?
Je pense que c'est un peu comme les arts de la scène en général, hein. Il faut avoir envie et aimer s'exposer en public déjà. Des fois on entend parler des rakugoka qui paraissent très très discrets, quand ils font des interviews, ils font tout ça pour l'art, enfin pour la beauté de l'art. Bon, moi je trouve que c'est un peu se foutre du monde, quoi, parce que c'est quand même un truc où on est tout seul en scène et donc on attend que quand même les gens nous regardent et ne regardent que nous. Donc il faut quand même avoir un ego assez assez développé pour faire ce truc, je pense. Et moi je m'en cache pas, j'aime bien qu'on me regarde et que quand je fais le pitre, ça marche. Donc je pense que la qualité, c'est d'avoir quand même un ego peut-être pas surdimensionné, mais en tout cas d'avoir un ego assez assez fort. Si on est discret, si on est trop discret, si on est d'un caractère trop discret, ça marche pas, quoi. Après faut aimer raconter des histoires aussi, puis raconter des histoires, c'est universel. Je pense que tout le monde aime écouter et raconter des histoires, donc je sais pas s'il y a tant que ça de qualité particulière à avoir pour faire du ragout. Enfin, après, il faut savoir tenir sur les genoux, hein, parce que c'est vrai que quand on reste 60 minutes assis sur les genoux en seiza, c'est quand même pas beau à voir après quand on se lève.
Oui, effectivement, c'est ce que j'avais pu voir.
Il faut avoir une certaine souplesse au niveau des articulations, ça c'est sûr. Mais voilà, quoi. On me demande souvent, je sors de spectacle, on me dit, mais vous avez fait du théâtre, tout ça. Je dis, non, moi, j'ai jamais fait de théâtre. J'ai vraiment commencé par le Rakugo tout de suite. Donc, je pense que j'ai aussi, mon esprit n'a pas été pollué par d'autres techniques de jeu, quoi. C'est-à-dire que je suis vraiment rentré dans le Rakugo tout de suite. et je me suis approprié tout de suite certaines techniques, certaines gestuelles qui finalement n'ont rien à voir avec le théâtre occidental, quoi. Ne serait-ce que par la position déjà, je veux dire, quand on fait, ou même quand on raconte des contes en France, on est debout, quoi. Donc rien que ça change toute la façon de faire, quoi. Donc voilà, oui, non, je dirais que la qualité principale, c'est de tenir assis sur les genoux pendant 60 minutes.
Oui, effectivement, c'est ce que j'avais cru voir, en tout cas comprendre, en tout cas lors de votre représentation. Vous nous aviez même dit qu'au bout d'un moment, vous saviez que ça faisait au moins 40 minutes que vous étiez assis, ouais. Vu la douleur que vous ressentiez.
La douleur dans les jambes, elle est parlante,
ouais. Oui, effectivement, donc c'est vrai que c'est assez compliqué, et puis il faut avoir de la bouteille quand même pour pouvoir tenir aussi longtemps. J'aimerais juste revenir justement sur les histoires que vous racontez. Je suppose qu'avec autant d'années de pratique, vous avez un registre d'histoires qui est bien garni. Combien vous en connaissez en tout cas, et quelle est l'histoire que vous aimez le plus raconter ?
Eh bien alors, bizarrement pas tant que ça, parce que je suis un peu fainéant moi. J'apprends des histoires quand ça me vient. Mais c'est vrai que là, je dois en avoir une quinzaine à peu près, une par an, quoi, à peu près. J'en apprends vraiment une bien par an, afin de pouvoir renouveler les spectacles, hein, évidemment. Et parmi celles que j'aime le plus, ça dépend des périodes. Là, en ce moment, j'aime bien jouer aussi l'histoire de la peur des gâteaux, là, les Manju Kowai. J'aime bien jouer Shinigami aussi. J'aime bien jouer l'histoire du Tanuki qui se transforme en billet de banque et en dé. J'essaye aussi de... vous avez vu le spectacle, donc vous savez de quoi je parle, mais par exemple cette histoire de Tanuki, oui. Bon, c'est une histoire qui est aussi en lien avec l'actualité, justement parce que j'ai créé une chute en lien avec les Jeux Olympiques de Paris. Donc j'essaie de rester aussi un peu dans le feu de l'actualité. Shinigami, par exemple, je me suis mis aussi à l'apprendre parce que c'est l'histoire qui est l'histoire fil rouge dans le manga Le Rakugo à la vie et à la mort. Et donc je sais que quand le public voit cette histoire, il a envie d'aller plus loin et il va peut-être se procurer le manga pour en savoir plus. Pareil avec La peur des gâteaux, puisque c'est aussi une histoire qui apparaît dans le manga Akane Banashi.
Effectivement.
Donc, c'est vrai que pour le public, c'est toujours très agréable et très parlant de voir, on va dire, en chair et en os, une histoire qui apparaît dans le manga. Ça peut aussi donner des indices et en tout cas une envie d'en savoir plus et d'en connaître plus sur le Rakugo. Donc, les histoires que j'aime le plus raconter, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend des périodes, quoi.
D'accord. Vous dites comme quoi vous adaptez généralement les chutes de vos histoires selon l'actualité, etc. J'avais pu lire que certains maîtres Rakugoka écrivaient des histoires contemporaines, donc après pour les jouer sur scène, et que certains même espéraient qu'elles leur survivent, parce que généralement elles disparaissent malheureusement. Est-ce que c'est votre cas ?
Alors effectivement, on a deux grands répertoires. On a ce qu'on appelle le Koten Rakugo, donc c'est le répertoire classique. Donc c'est les histoires qui existent depuis l'époque Edo et qu'on continue de jouer sur scène de nos jours. Et on a ce qu'on appelle le Shinsaku ou le Sōsaku Rakugo. Et donc ça, c'est effectivement des histoires que des maîtres qui sont vivants écrivent et jouent sur scène. Alors moi, j'ai pas de pièce contemporaine en français. J'en ai une en japonais, en fait, qui est une parodie de cette histoire que vous avez eue du petit garçon avec un prénom super long, là, Jugemu, etc., etc., etc. Et en fait, c'est une parodie où j'ai remplacé tous les mots du prénom qui est très très long. Quand on l'écrit, ça fait au moins 3-4 lignes. Donc j'ai remplacé tous les éléments de ce prénom par des mots français que les Japonais connaissent, en fait. Donc c'est vraiment une histoire qui a été créée et retravaillée pour le public japonais, qui n'a aucun intérêt pour un public français. Donc là-dessus, je suis... on peut dire que c'est une histoire contemporaine. Après, interpréter une histoire et écrire une histoire, c'est deux métiers différents. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'imagination pour créer quelque chose. Donc il m'arrive de temps en temps qu'on m'écrive une histoire, quelque chose de contemporain. Donc c'est quelqu'un dont c'est le métier hein, qui fait ça. Et puis moi, après, je la joue soit en japonais, soit en français. J'en ai une là que je joue et pas mal en japonais il y a 2 ou 3 ans. Et je voudrais la faire maintenant en français, donc il faut que je trouve un peu une traduction un peu sympa. Mais voilà, c'est une histoire aussi, comme on me disait tout à l'heure, avec une situation, avec un thème assez universel. Donc il ne devrait pas y avoir de problème pour qu'elle soit adaptable et jouable en français.
Parfait, bah merci beaucoup pour votre réponse. Dernière petite question, on va dire, pour terminer cette première partie. C'est l'instant promo, on va dire. Où est-ce que vous allez vous produire prochainement ?
Alors prochainement, je suis actuellement en France et je suis en tournée. Et à partir de la semaine prochaine, je suis en France, mais je suis en Suisse aussi. Je joue à près de Lausanne, à Aubonne, le 16 juin. Et la semaine d'après, le 22 juin à Lyon, le 25 à Paris, avec Sanjute Kosennen, donc le Suédois qui fait du rakugo aussi. On sera ensemble à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Et du 28 au 30 juin au Japan Tour Festival, donc à Tours. Et le 2 juillet à Niort.
Merci pour ces précisions et pour nos auditeurs, n'hésitez pas à venir voir une représentation de Cyril. C'est la fin de la première partie de cette interview. On se retrouve mercredi prochain pour la deuxième partie. On parlera du métier de traducteur de manga et du rakugo dans le manga.